Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Charline, je suis un peu contrarié.
Ah bon?
Mais je trouve que Guillaume prend beaucoup de place dans cette émission.
Mais non.
Bah attends, hier on recevait...
Éric Valmire.
Exact, pour son livre Pêcheur d'hommes.
Et Pêcheur d'hommes, cher Robert Laffont.
Eh,
c'est Guillaume Meurice qui l'a lu, vous l'avez lu.
Évidemment, et vous avez de la chance parce que je lis très très peu de romans.
Ça se voit, hein.
Là,
ça
c'est vraiment le dernier roman que j'ai lu, c'était Clara Dupont-Mono, c'est pour vous dire si ça m'a dégoûté un petit moment.
Voilà, en plus monsieur se moque des grandes écrivaines.
Oui,
alors,
c'est bon. Et remercie plutôt Guillaume d'avoir lu le bouquin.
Ah oui, je te le remercie en plus, mais oui, bien sûr.
T'inquiète pas, mais il va pas prendre ta place.
C'est son rêve de prendre ma place.
Mais non, mais ni dans l'émission, ni dans le cœur de Clara d'ailleurs.
Bah ça, heureusement, parce que je peux te dire, elle l'a bien mouché.
Éric Valmire, c'est donc Guillaume Meurice qui a lu votre ouvrage, qui a fait l'interview au début de l'émission.
Qui a posé une question.
Il a quelques...
Bam ! Mouché.
Oui, bon voilà, bah donc on n'en parle plus, c'est bon.
Ah non, on va en parler, parce qu'après il m'a attaqué personnellement.
Ah bon ?
Ah bah tiens.
Je vais vous parler des retraites aujourd'hui. Parce qu'on le sait, il y a plusieurs manières assez diverses d'occuper son temps libre. On sait que les personnes âgées aiment bien aller, par exemple, au spectacle d'Alex Vizorek.
Non mais c'est drôle.
Non, c'est pas drôle, non.
Mais enfin, toi-même, on t'entend rire.
Mais c'est parce que je suis professionnel, madame.
Ouais, ça va. Et t'as fini de critiquer ton camarade, oui.
Camarade, bah on sera camarade quand il arrêtera de ramener sa culture, l'autre.
Ça, je comprends pas.
Bah je vais te le montrer, ça. Hier, après la chronique de Clara.
Paul Claudel disait, il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance.
Et voilà, monsieur cite les grands auteurs.
Mais ça va, tu peux le faire aussi, si tu veux.
J'ai déjà fait, j'ai cité Platini un jour, alors je peux te dire.
En tout cas, je
comprends pas bien son petit jeu, là, Meurice.
Écoute, Alex, tu sais quoi? Faut pas comprendre. Il faut perdre connaissance.
Paul Claudel.
C'est pas Platini, t'es sûr? Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Startup émission. Cet open space où on vous propose 100 balles à Mars et 3 informations. La jeunesse américaine se dresse contre les armes à feu. Quelque chose est peut-être en train de changer chez l'oncle Sam où ses petits neveux prennent la parole face aux élus engraissés par le lobby des armes. Lobby qui a l'air très sensible à ce qui est en train de se passer.
Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise?
Super, très à l'aise. Est-ce qu'il est plus difficile de se faire des amis après 30 ans? La vie professionnelle et familiale modifie la manière dont on forge ses amitiés et elle serait moins forte que les relations qui naissent à l'adolescence.
Bon, moi j'ai beaucoup d'amis, je ne sens pas seul ni détesté. Heureusement j'ai mes proches.
Heureusement Manu. Qui sont ces gens qui se ruent à la séance de cinéma du mercredi à 9h pour être les premiers à voir le film? La fréquentation de cette séance est scrutée de très près par l'industrie du cinéma. Et qu'est-ce qu'on entend dans la file du mercredi matin?
On a vu le film de Fellini mardi dernier. C'est loin d'être un de ses meilleurs. Au fond, il m'a toujours paru évident qu'il n'était qu'un remarquable technicien.
Fellini, c'était une tanche. Lui, si vous allez voir son spectacle, je vous préviens, il va vous spoiler Mort à Venise.
Mais oui.
Bah oui, c'est Alex Vizorek, bonjour.
Oui, qui n'était pas un si mauvais film que ça. Et autour de la table, une belle équipe pour terminer cette semaine. À 17h20, celui qu'on est ravi de vous proposer juste avant les vacances, ça vous permettra de réfléchir à sa chronique pendant une dizaine de jours. Et c'est nécessaire, Hippolyte Girardot, bonjour.
Bonjour, donc ma chronique porte justement sur les vacances d'hiver.
Eh ben dites donc,
incroyable.
Pour une fois que vous êtes dans le thème.
Exactement.
À 17h30, quand on lui dit que son interview est mortelle, ce n'est pas vraiment un compliment. Celle qui parle avec l'au-delà et qui donc est au-delà de la vérité, c'est vous, Christine Gonzalez, bonjour.
Bonjour, on est en connexion aujourd'hui avec Charles Trenet. On est si heureux de vous entendre, Charles. Vous savez, dans l'émission, tout le monde vous adore.
Moi, je suis sensible surtout à l'appréciation des gens intelligents.
Voilà.
Dites donc, il sait où il est tombé. 17h40, la France le réclame encore plus que son coiffeur. Le prince de l'actu, le roi de la musique, l'empereur de l'actualisique. C'est vous Thomas VDB.
Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est Thomas VDB. Et moi je trouvais aujourd'hui que cette semaine, les oreilles de Christine Angot n'ont pas assez sifflé.
Ah.
Donc je me suis dit, on va s'occuper de faire en sorte qu'elle ressiffle encore un petit peu aujourd'hui.
Que votre avis dans ce débat. À 17h55, on partira en vacances sur sa chanson. Autant vous dire que je ne vous certifie pas le soleil. Frédéric Fromet viendra nous chanter l'actu.
Et je me tourne vers celle qui va ambiancer cet open space. Vous découvrez votre vocation d'actrice pendant un voyage scolaire à Paris où votre prof de philo vous emmène voir les éphémères d'Ariane Mnouchkine. Vous intégrez le Conservatoire d'art dramatique de Paris en 2011. Un an après, vous incarnez la sœur de Manu Payet dans Radio Star de Romain Lévy et vous tournez dans Une nouvelle amie de François Ozon. Vous jouez plus tard dans Fatima, le film de Philippe Faucon, et votre rôle d'étudiante en médecine qui lutte contre le déterminisme social vous permet d'obtenir le César César du meilleur espoir féminin. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Zita Enro.
Mais oui.
Eh oui.
C'est elle.
Bah oui, ah oui, on peut y aller alors.
Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Zita Enro.
Merci.
Merci d'être là aussi. On va parler de La fête est finie, le film de Marie Garel Weiss, avec vous et avec Clémence. Alors comment on prononce-t-on, Clémence Boinard ?
Boinard, oui, c'est ça.
On prononce pas le S.
Non.
Qui sort en salle mercredi prochain. C'est l'histoire de Céleste et Siem, deux jeunes junkies qui se lient d'amitié dans un centre de désintox. Amitié si fusionnelle qu'elles vont. Cette amitié va tantôt les sauver, les tirer vers le haut, puis tantôt les faire replonger. Zita Enro, vous avez préparé votre rôle en allant à des réunions d'associations des narcotiques anonymes, c'est juste ?
En fait, c'est des groupes de parole, c'était pas forcément que les narcotiques anonymes, mais c'est vrai que c'était assez nécessaire pour préparer ce rôle, parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant, j'avais pas mal de clichés sur ce qu'était un toxicomane.
C'est-à-dire, par exemple ?
Bah, de toute façon, toute l'imagerie des toxicomanes dans... alors, je dis très mal ce titre en anglais, Trainspotting.
Mmh. Ah oui, très
voilà.
Bien.
Je me débrouille bien. Et voilà l'idée du toxicomane complètement anorexique, qui n'arrive pas du tout à s'insérer dans la société, dans le monde. Et en fait, en allant dans ces réunions, je me suis rendu compte que ces personnes était comme moi, qu'il n'y avait pas de différence, que en fait le film parlait de l'humanité de ces personnes, donc l'humanité de tout le monde, et non pas seulement que de l'addiction aux produits. Et c'est vrai que c'était important pour rentrer dans l'histoire et essayer de raconter, comment dire, le plus... en tout cas, essayer d'être le plus crédible possible et me dire que il y a une certaine responsabilité aussi en choisissant de faire ce film et de pas voilà, de pas partir dans un stéréotype et voilà.
Et c'est vrai qu'on peut s'identifier, c'est-à-dire que la manière dont vous avez travaillé et vous dites on est en dehors des clichés, etc., fait que oui, on peut s'identifier au personnage et se dire que ça pourrait nous arriver et de vivre le film de façon très épidermique. Vous avez, j'ai lu que vous avez essayé d'être dealeuse, mais que vous avez fait piquer votre stock.
C'est vraiment des bêtises. Non, mais non. Oui, en fait, j'ai essayé quand j'avais peut-être 15 ans,
ouais.
À Marseille. J'ai essayé.
Là, c'était déjà prise un peu.
Vous avez failli plonger. Ouais,
et... C'est là que c'est plus facile de commencer. Formation pour tous les niveaux.
C'est le bon âge, la bonne ville. C'est bien.
Oui, c'est ça. Et j'ai essayé deux fois. Et en plus, je sais même pas moi qui me suis fait piquer mon stock. C'est ma meilleure copine avec qui je faisais ça, qui s'est complètement fait rouler.
On va dire son nom, quand même.
De toute façon, elle habite pas en France. Émilie Petersen. Voilà.
C'est Madame Petersen qui va être contente.
Alors, la réalisatrice Marie Garel Weiss, c'est en partie inspiré de son histoire, donc il y a une forme de véracité aussi, et puis le fait que vous ayez travaillé ce rôle aussi en allant voir ces réunions, ça donne une autre dimension à votre interprétation, c'est-à-dire que vous sentez comme un peu investi aussi d'un message ou d'une mission.
Ouais, c'est ça, d'une responsabilité. Mais en fait, ce qui est drôle en découvrant le scénario, ce qui m'a frappé, c'était vraiment cette histoire d'amitié entre ces deux jeunes femmes. Et c'est pas forcément l'addiction à la drogue. Donc ça paraît bête comme ça, parce que bon, ça existe quand même beaucoup dans le scénario. Mais je me suis pas vraiment interrogée sur le problème de l'addiction. Et c'est quand on a commencé à travailler, je me suis dit, mais oui, bien sûr, on parle de ça aussi. Mais c'est vrai que de toute façon, le film parle surtout d'amitié. Moi, je le vois un peu comme une espèce de Thelma et Louise. Voilà, de jeunes femmes perdues qui essaient de s'en sortir et qui vont lutter ensemble, et quelque chose voilà d'assez lumineux. Et
J'ai une question sur votre carrière, parce qu'après le César du meilleur espoir, on imagine que pas mal de scénarios doivent tomber sur votre bureau. C'est à ce moment-là qu'il faut choisir les bons. Alors, est-ce que vous avez fait très attention à ça? Est-ce qu'il fallait choisir des films populaires? Fallait choisir des films d'auteurs? Fallait montrer d'autres côtés de votre palette d'actrices?
Dans la façon, donc déjà carrière, ça m'impressionne un peu.
Vous avez 28 ans,
pas...
hein,
oui, voilà, temps, et puis ça fait 4 ans que je vis de mon métier, donc j'arrive pas à dire encore que c'est une carrière.
Ouais, mais vous aurez qu'il a un business plan pour
vous. J'ai tout prévu, hein, mais je vais voir si vous êtes d'accord avec moi.
Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est drôle, parce que quand j'ai eu le César du meilleur espoir, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, c'est formidable, tu vas avoir plein de boulot, et pendant 3 mois, j'avais pas de boulot. Et donc j'étais un peu inquiète. Ouais. Je me disais, mince, ça marche pas du tout. En tout cas, ça marche avec les autres, mais pas avec moi. Et finalement, au bout de 3 mois, on m'a proposé de passer des essais pour un film. Des essais que j'ai réussi puisque j'ai fait ce film. Et là, tout s'est un peu bousculé et j'ai eu plusieurs propositions. Mais au niveau du choix, en tout cas, comment pour l'instant je procède, c'est que c'est si j'ai envie de raconter cette histoire et si j'ai envie de faire partie de cette histoire et de... Voilà, après, pour l'instant, je suis pas trop dans une idée de me dire, bon, il faut absolument que je fasse quelque chose de populaire. De toute façon, c'est raté parce que les films que je fais sont pas vraiment populaires. Sauf La Fête est finie. Je pense que c'est le plus populaire.
Ouais, ouais. Ça pourrait. La Fête est finie. Donc, ça sort mercredi prochain en salle. Très beau film de Marie Garel Weiss avec notre invitée, Zita Enro, et avec Clémence Boinard. Vous êtes sur France Inter, par Jupiter. Il y a Thomas VDB, Hippolyte Girardot, Christine Gonzalez. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and treat me like a man. They think I know, but that's just it, I'm a child. Well, I need you to help me reach the door. And I need you to walk me to the store. Devendra Bonhart, I feel just like a child, comme nous, sur France Inter, par Jupiter. Et c'est Zita Enro qui est en notre compagnie, que vous pouvez voir dans La Fête est finie, mercredi prochain en salle. Et pour l'entourer, Alex.
Eh bien, Thomas VDB, Christine Gonzalez et Hippolyte Girardot. Frédéric Fromet viendra chanter à la fin de l'émission.
Bien sûr. Je allez, l'info de l'info.
À quelle heure s'en va le train ?
Le journal de presque 17h17.
Ah, 17h17. Un moment de 5h15.
Et on commence par les titres.
Lors de son discours devant les conservateurs américains, la salle était à moitié pleine pour écouter Marion Maréchal Le Pen.
Oui, la grande différence entre cette salle et les électeurs du Front National, qui eux sont souvent bien pleins.
Selon le magazine Challenge, oui, l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem va rejoindre l'Institut de sondage Ipsos.
Oui, oui, pour elle, c'est la seule manière de prendre un jour la tête d'un sondage.
Est-ce qu'on va te faire subir des brèves ?
Apparemment, selon le sondage Najat, les brèves ont la même cote de popularité qu'elle,
100%. Ouais, comme quoi c'est du clip. On commence par la politique française.
Et on va de l'autre côté de l'Atlantique. La visite de Marion Maréchal aux States, où elle a fait un discours in English.
Brexit in the UK. Manif pour tous in France. And of course, the election of the president Donald Trump prove a fact. When the people are given the opportunity to take their country back, they will seize it.
Attention, on peut saigner des oreilles un petit peu, hein, si on est prof d'anglais. Et cette belle phrase que je vous traduirai après, mais bon, vous allez la comprendre.
And the terrorism is only the tip of the iceberg. This is not the France that our grandparents fought for.
Ce n'est pas la France pour laquelle nos grands-parents se sont battus. Rappelons que son grand-père, c'est surtout en Algérie qu'il s'est battu. Oui, non, c'est à vous.
Ah bon ?
Oui,
ah bah, c'était pas ce qui était. Oui, bah, ah bah, si, c'est moi. Bah, c'est parce que je dois dire qu'on passe à un village Emmaüs.
Exactement.
Oui, oui, qui a proposé à Jérôme Cahuzac de venir purger sa peine dans sa communauté.
Et c'est une excellente idée. Hein. Il va pouvoir leur parler les gueux dans les gueux.
Reconversion au PS toujours. Najat Vallaud-Belkacem va rejoindre l'Institut de sondage Ipsos.
Et oui, mais après, on va dire que l'éducation nationale permet quand même aux gens de trouver de l'emploi après à leur sortie. Chapeau à elle.
Venons-en à Emmanuel Macron.
Oui.
Selon BFM TV, il va jouer dans le conte musical Pierre et le Loup lors d'une représentation organisée pour des enfants à l'Élysée.
Oui, mais une version plus courte et réactualisée. Un beau matin, Pierre Gattaz ouvrit la porte d'une usine. Il demanda à Bruno Le Maire de leur parler économie. Les enfants, vous reconnaîtrez facilement Bruno Le Maire par les petites notes de pipeau. Puis Pierre lâcha le code du travail. Le code du travail tente de s'enfuir. C'est alors qu'un grand loup gris le poursuit et l'avale d'un coup. Voilà, les enfants, ce sera peut-être votre vie.
Merci, Alex Vizorek. Gouvernement encore.
Oui. Oui, le gouvernement, oui, c'est à moi cette fois, a demandé, en forme, il est temps qu'on parte en vacances, a demandé un rapport sur d'éventuels risques sanitaires liés aux terrains de foot synthétiques.
En effet, Alex, oui. Car selon plusieurs enquêtes journalistiques, les terrains synthétiques seraient bien plus dangereux pour la santé que les terrains naturels
et
en herbe.
Et ça, Thomas BDB peut vous le dire, ne fumez jamais de l'herbe synthétique, c'est très très mauvais.
International, oui. Avec la Turquie qui envisage la castration chimique pour les pédophiles.
Et ben voilà, cet été, ce sera encore la Thaïlande pour Frédéric Mitterrand.
Média.
Oui, Jean-Pierre Pernod a fêté ses 30 ans à la présentation du JT de TF1 à 13h.
TF1, Jean-Pierre, fait partie des meubles.
Hein. Mais pas n'importe quel meuble, des meubles façonnés à la main par le dernier artisan du Marais Poitevin qui travaille encore les outils en os de loutre.
Merci, c'est bon. En tout cas, 30 ans à la présentation d'un JT, c'est un record.
C'est un record, 30 ans de journalisme sans en avoir jamais fait, c'est un record, Jean-Pierre, chapeau.
Allez, et bref.
Non, j'ai un cadeau, parce que de temps en temps, je regarde France 3. Un jeu assez intéressant où il faut trouver des mots qui commencent par pop.
Poplité, populisme et popper.
Je vous remercie de l'avoir
bon
mis.
Bon courage.
Très bien, enfin, si je peux m'exprimer ainsi.
Voilà, Cyril Ferraud est pas très content parce qu'il doit donner la définition des mots après.
Alors, qu'est-ce que c'est que le poppers? Eh bien, c'est un vasodilatateur qui permet de dilater les vaisseaux sanguins, utilisé en médecine pour certaines maladies cardiaques. Je m'en suis sorti.
Eh ben, pas mal, chapeau. Bonjour les enfants, vous savez ce que c'est un poppers?
17h26 sur France Inter, à Paris et à Marseille, où nous écoute Vincent. C'est le papa de Zita Enro, qui écoute souvent l'émission. On l'embrasse très très fort. Et voilà, il va écouter sa fille aborder ce premier sujet.
Il a dit, si elle est nulle sur les sujets, elle ne rentre pas bouffée samedi midi. Donc
il peut nous appeler pour l'aider, s'il veut, Vincent. Aux États-Unis, une génération est en train de se lever contre la commercialisation des armes à feu. Une génération de nouveau amputée de 17 lycéens à Parkland. Une génération qui est née avec la tuerie de Columbine et qui peut-être faire en sorte qu'on n'en arrive pas là, ici.
New York est devenue une ville terrifiante, à tel point que je ne sors plus de Kennedy Airport. J'y donne mes rendez-vous, j'y discute mes affaires et je reprends l'avion.
Ah bon ?
Mais la violence est partout dans New York. Un meurtre toutes les 20 secondes. 112 agressions, 14 attaques à main armée la minute. Les Noirs, tous des drogués. Et la drogue, ça coûte très cher. Alors pour l'acheter, il faut prendre l'argent où il est.
Mais moi, je reste quelques heures.
Il suffit de quelques secondes pour se faire assassiner. La seule chance de survie ici, c'est la course à pied. Si quelqu'un vous court après, il faut pouvoir courir plus vite que lui.
Extrait du film Banzai. Zita Manro, vous avez passé, vous, quelques mois à New York, si je ne m'abuse, non ?
Oui, c'est vrai, oui.
Est-ce que c'est un thème de société que vous avez plus ou moins approché en étant là-bas, ou c'était hors de votre sphère ?
Alors, c'était hors de ma sphère, puisque j'avais pas d'argent, pas de travail, je babysitais des chats. j'étais un peu perdue, en fait, donc je me suis pas du tout interrogée sur...
Les armes à feu.
Exactement. Ah, et en revanche, je suis retournée aux États-Unis il y a peut-être 2 ans et effectivement là je me disais ah oui en fait ça se trouve la personne avec qui je parle a une arme à feu dans son cachet dans ses vêtements.
Vous posez la question.
Ouais, ah ouais. En fait ouais, ce voilà cette espèce de danger comme ça permanent et je trouve ça bon de toute façon les armes à feu ça me dégoûte donc ouais. Donc voilà.
Et cette génération, et toutes les générations aux États-Unis, ils sont confrontés depuis longtemps. Là, apparemment, il y a quelque chose qui est en train de se lever parce que c'est les lycéens qui ont pris, qui sont le fer de lance du mouvement. Est-ce que vous sentez dans votre génération, vous avez 28 ans, Zita, est-ce que vous sentez une volonté de changement de votre génération ? Est-ce que vous les sentez un peu actifs ? Alors évidemment, aux États-Unis, ils sont face à Trump, donc ça suscite évidemment.
Ça réveille
un peu.
Bah oui, je sens ça. En fait, je pense comme tout le monde, on a surtout ressenti ça après les attentats donc à Paris. Mm-hmm. Voilà, une espèce de conscience, en tout cas politique, et s'interroger un petit peu plus sur le monde dans lequel on vit, et qu'est-ce qu'on pouvait faire, et puis même une espèce de solidarité aussi qui est venue à un moment, peut-être que là, elle est moins présente, mais oui, il y a quand même quelque chose, j'ai la sensation, des gens de mon âge, on se dit... par rapport à la surconsommation, quoi, toutes ces choses aussi, de se dire comment on va laisser le monde et vers quoi on va. Donc, peut-être un peu plus de conscience. Mais
la
bon.
Conscience en éveil. Ouais. Vous, la façon de vous engager, c'est aussi les choix des films que vous faites. On vous a vu dans Fatima, ici, dans La fête est finie aussi. Il y a une forme de... Prenez à bras-le-corps les sujets sociétaux, quand même.
Oui, mais alors, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en choisissant ces projets, je ne me suis pas vraiment interrogée sur le contexte social que les scénarios racontaient. Et c'est plus une espèce de choix inconscient où je me retrouve dans ce genre de projet. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qui doit me parler. Mais voilà, c'est l'histoire qui me donne envie. Et donc, je me rends compte au fur et à mesure qu'il y a un contexte social assez fort à chaque fois.
Zita Enro est en notre compagnie et face à vous il y a un grand acteur, oh là là. Hippolyte Girardot, devenu grand chroniqueur chez nous.
Ça n'a rien à voir. Parce que moi non, mais j'ai rencontré cette jeune actrice talentueuse sur les pistes de ski lors d'un festival. Voilà. Mais oui, il faut quand même le dire parce que
ça bosse. Hein.
tu verras.
Ça bosse dur.
Ça va t'arriver aussi, mon cher Thomas. Et tu ne seras pas le dernier en train de faire de la luge. Donc voilà, bon les jeux d'hiver se terminent là. En Corée, donc les gens partent en vacances de ski. Bon, c'était un peu la dernière occasion de voir des champions-championnes s'élancer de haut de pentes abruptes, effleurer de l'épaule des piquets bicolores, valser d'une bosse à l'autre, avant de déraper dans une magnifique vague de neige. Ces petites minutes, ça c'était bien.
On a bien fait ça.
Ah bah oui, c'est un comeback. Merci. Donc ces petites minutes de glissade sont au déplacement humain ce que l'escalator est à l'escalier, un rêve inavouable. Parce que l'idée du ski, c'est de mettre ses deux pieds sur deux morceaux de bois, de pouvoir descendre les pentes enneigées des montagnes. C'est idiot, je vous l'accorde, et complètement inutile, n'est-ce pas, Christiane, qui est suisse. Mais c'est très relaxant. Le paysage est splendide et vous avez l'impression de voler à ras de terre. Bref, c'est à la marche à pied ce que la crème chantilly est à la pâtisserie, ce qu'une épidémie soudaine de morts célèbres serait à la chronique de Christine, ou ce qu'un striptease de Dupont-Mono serait à l'entrecuisse d'Alex Vizorek. Un shoot d'adrénaline, une jouissance esquisse, une sensation de défonce naturelle, c'est-à-dire, résumons, la seule chose qui vaille dans notre époque enthousiasmant. Et comme dans les analogies citées, avoir du plaisir à ski s'obtient avec doigté, je pense au striptease, et avec obstination, et je pense à l'épidémie, ou le contraire, peu importe. Néanmoins, pour jouir à ski, il faut contourner les obstacles, skieurs et promeneurs, arbres et rochers, grâce à un pivotement radical du bassin, passer les bosses en pliant ses genoux aussi vite que les pistons d'une locomotive à vapeur, et s'arrêter noblement dans un virage large comme une référence du grand siècle.
C'était pas le
oui,
même.
Oui,
rassurez-moi.
C'était pas.
Ah, bien joué.
C'est un art. C'est un art. On fait de la radio.
Non,
c'est un art sportif, mais c'est également un art de l'élégance. Mais en fait, non. Car il y a sur les pistes un personnage pour qui le mot élégance doit se confondre avec celui de faiblesse, de dévirilisation, c'est le snowboarder. Et j'avais oublié, vu que ma dernière visite sur une piste, c'était il y a longtemps. Bref. Alors déjà, quand tu loues tes skis, on te dit, mets un casque, mec, on te dit. Mais pourquoi, la dernière fois que j'ai mis les skis, moi, j'avais dû skier à poil, ma copine aussi, mes copains aussi. Bref, c'était une excellente façon d'apprendre à ne pas tomber dans la neige. Mais là, un casque, comme si j'étais en moto. Non, mec, pas comme si t'étais en moto, comme si j'allais à la guerre. Bon, tu sais pas pourquoi, tu grimpes, tu commences à glisser, à retrouver cette sensation, et alors que tu planes à 1 centimètre du sol, tu te retrouves cul par-dessus tête à cause d'un tourbillon t'ayant pris pour un piquet de slalom. C'est le fameux snowboarder. Oui, alors il jouit, celui-là, de terroriser le skieur hésitant en le frôlant assez pour le faire chanceler ou tomber. Alors non seulement vous comprenez pourquoi il fallait mettre un casque, mais vous regrettez de ne pas avoir pris l'option combinaison airbag. Tout ça à cause du snowboarder. C'est lui le comble du machisme. Celui qui impose sa testostérone en combinaison camouflage, lunettes miroir et cagoule au motif tête de mort. Lui, le snowboarder. Il prend la pente de biais, lui. En douce, hein. Il n'hésite pas à sauter une bosse et en sortir par un looping sans avoir vérifié qu'un skieur planant n'est pas en train de musarder quelque part plus bas. Non, il s'en fout. Et si vous avez de la chance, il lâchera un désolé énervé et repartira dans sa tenue aussi gaie qu'un sac poubelle, effrayer quelqu'un d'autre. Lui, il s'en fout parce qu'il est le snowboarder. Mais l'air de dire, comme si vous disiez tout le temps, mais qu'est-ce que vous foutez là, là? Vous skiez? Mais bon, vos vieux, ça se fait plus, ça, skier sur une piste de ski.
Merci Pauline. Si vous avez un autre coup de gueule aussi fort que celui-là, revenez à ce micro.
Ouais, je vais trouver sur mon tête chaude après les vacances.
Attendez, moi je suis sûre qu'il y a plein de vacanciers. Alors on rappelle que 8%, ah, oui. 8% des Français vont en vacances, mais il doit y avoir 7% qui râlent contre.
Ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup
et
de bien.
Ça va parler à beaucoup de gens. Hippolyte Girardot, merci.
Mais je vous en prie.
Nous sommes en compagnie de Zita Enro. À venir, Christine Gonzalez qui interview Charles Trenet et Thomas VDB qui est dans la place. Un peu de musique. On revient tout de suite. Cela, l'amour c'est mieux. Et pendant l'amour, nous on a beaucoup parlé de ski. Peut-être vous aussi chez vous, vous avez débattu suite à la chronique d'Hippolyte Girardot sur le snowboard. Et Zita Enro, notre invitée, vous pratiquez les skis courts, c'est ça?
Oui, voilà, les snowblades. Les snowblades, mais bon, les snowblades c'est quelque chose, c'est un peu les caïras marseillaises à Serre Chevalier. Donc c'est pas très élégant.
Attendez, parce que je vous entends descendre la piste. Oui, ça c'est vous.
C'était génial.
Avec les oreilles que m'a dit après la chanson. Laisse-moi 5 secondes, j'ai un truc à dire. Je m'attendais pas à ça.
Si vous donnez tous mes trucs, oui, les gens croient que c'est improvisé.
Zita Enro est en notre compagnie. La fête est finie, c'est le film que vous pouvez voir en salle mercredi prochain avec Clémence Boinard, un film de Marie-Garelle Veil. C'est l'histoire de deux jeunes junkies qui essaient de s'en sortir. On va y revenir tout à l'heure puisqu'on va aborder le sujet de l'amitié qu'on a choisi expressément pour en reparler. Christine González, vous venez du pays de la neige et du ski aussi, de la Suisse, en direct de la RTS. Et vous êtes parmi nous encore aujourd'hui, Christine.
Oui, c'était une semaine de février comme celle-ci. Il y a 17 ans que la France perdait son fou chantant, Charles Trenet. Il a laissé derrière lui des centaines de chansons, des millions d'euros et quelques procès.
Oh, on en connaît un autre.
Ça vous rappelle un truc, je sais pas. Charles Trenet disait que la vie est simple, il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Il ne chante plus, mais peut-être a-t-il encore quelque chose à dire. Bonjour Charles Trenet, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce qu'on a une bonne connexion ?
Oui, excellente, oui.
Ah, génial. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
C'est terminé maintenant cette histoire de faire les imbéciles. Vous n'êtes pas bête du tout. Et prouvez-le. Voilà.
Faut pas m'engueuler comme ça. Enfin, c'était juste pour vous faire plaisir.
C'était très gênant. Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord de répondre à quelques questions pour une interview posthume ?
On ne peut pas poser à des vivants des questions qui concernent leur mort.
Non, mais on peut demander aux morts ce qu'ils pensent des vivants.
Si vous voulez.
Il n'est pas sympa, en fait.
Non, je disais juste que vous avez l'air un peu dur, comme ça.
Non, 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 au contraire. Les gens savent très bien que je ne suis pas méchant.
Dites, vous avez suivi, Charles Trenet, l'actualité de la semaine ?
Non, pas du tout, non.
Vous voulez que je vous mette à jour ?
Oui, oui.
Bon, attendez, tiens, le journal, hop, là. Alors, je vous lis le journal, si ça vous va. Attendez, hop. La défense de Cahuzac supplie de lui éviter la tôle.
Non, mais je crois que c'est une petite blague.
Jérôme Cahuzac sera fixé sur son sort le 15 mai. Tout ça, je vous rappelle, pour une histoire de compte non déclaré en Suisse.
C'est quand même curieux. Ça m'a toujours étonné, ça.
Mais moi aussi. Enfin, franchement, faut être con pour se faire choper en Suisse.
C'est un amateur.
Demain s'ouvre le salon de l'agriculture. Visite d'Emmanuel Macron sous haute tension. Ça va être très compliqué pour lui. Hein.
Pour être compliqué, il faut avoir une espèce d'intelligence.
La colère gronde dans le monde agricole contre le pouvoir. Et à mon avis, les agriculteurs vont lui balancer des œufs.
Oui, beaucoup. Mmh. Énormément.
Alors, je tourne le journal. Le Monde, hein. Ah, mauvaise passe pour Marine Le Pen.
Mais c'est une femme qui a beaucoup d'autorité, de volonté.
Oui, alors ça, de la volonté.
Bon, mais elle ne va pas durer éternellement.
À l'approche du congrès FN, la chef du parti subit les offensives de sa famille et voit son père, sa nièce et Florian Philippot sortir chacun à leur façon du bois. Pas de chance avec l'agenda. Hein.
Ça, c'est le bon Dieu.
Voilà. Marine Le Pen qui d'ailleurs défend David et Laura Smet hein, dans la guerre de succession après la mort de Johnny.
C'est triste quand même.
De quoi, cette histoire d'héritage ?
Oui, j'étais très étonné. Johnny a toujours eu un très grand sens des affaires, c'est très curieux.
Mais vous comprenez que les enfants s'indignent ?
Vous parlez de gens qui sont des troubadours. Et quand il n'y a pas de beurre, on prend des ersatz.
Alors que vous, à votre mort, vous avez fait simple, hein, vous n'êtes pas emmerdé. Vous avez légué toute votre fortune, des millions d'euros, à votre secrétaire particulier.
Que je suis la simplicité même.
Et sans penser au reste de la famille.
Non, vraiment, je n'y ai pas pensé. Non, vraiment.
Certains membres de votre famille se sont battus, mais en vain. Ça vous a pas fait de la peine, toutes ces polémiques, ces déchirures après votre mort ?
Non, je plane dans d'autres sphères.
Bon, d'accord. Bon, on arrête la lecture de l'actualité. C'était en tout cas un plaisir de vous lire la presse. Et, bah, je suis désolée d'avoir déraillé avant. En fait, c'est Charline, ma prof de chant.
Oh, mais très bien, on pourrait chanter ensemble. Seulement, il faudrait qu'on répète un petit peu.
On peut s'improviser un truc maintenant. Hein.
Je le sens pas.
D'accord, tant pis, ben, une autre fois. Merci Charles Trenet pour cette interview posthume, au revoir.
Au revoir.
Merci Christine González. Oh, mais j'ai failli chanter avec Charles.
Ouais, mais on peut faire sans lui. Hein.
Merci Christine, c'était formidable. On avait vraiment l'impression, comme à chaque fois, d'y être. Les archives.
Charles Trenet dans Radioscopie, aux côtés de Jacques Chancel. Et c'était voilà. Sur France Inter.
Très bien. Merci Christine González de la RTS. Zita Enro est en notre compagnie. On va en profiter pour aborder ce deuxième sujet avec vous. Se faire des amis après 30 ans, c'est pas si évident, d'après les sociologues. L'installation dans la vie adulte rend difficile la formation relation d'amitié proche. Quand on a 20 ans, toutes les conditions sont réunies, la proximité, les interactions répétées du cadre scolaire ou universitaire. Une fois livrés à nous-mêmes, les conditions de naissance d'une amitié changent un peu. Et c'est un thème important parce que, bah parce que voilà quoi.
Ah, voilà ce qu'il y a meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde.
C'est Henri Gara. Une chanson qu'on dédie à Guillaume Meurice, qui est déjà parti en vacances.
Henri Gara, Charles Trenet était avec nous. La chance aux chansons aujourd'hui sur France Inter.
Voilà, c'est un sujet paru dans le New York Times et relayé par Slate.fr. Alors, les idées en gros, est-ce que les emplois du temps plus chargés, aussi les priorités qui changent quand on a, quand on a 30 ans, bon, vous, il vous reste donc 2 ans avant de vous faire des vrais amis, si j'ai bien compris cet article. Est-ce que plus on grandit, plus on devient exigeant en amitié? Vous pensez?
Moi, je sais pas, j'ai pas trop d'amis en fait.
Oh,
ouais. Alors. J'espérais m'en faire ici aujourd'hui.
On l'accueille, c'est ça? Bah ouais, bien sûr.
Merci. C'est peut-être que vous êtes pas sympa aussi.
Non,
c'est pas toujours la faute
arrêtez,
des autres.
Je vous permets pas.
C'est le truc qu'on avait mis en place, c'est pour.
Et est-ce que c'est plus difficile de s'en faire maintenant que vous travaillez beaucoup et par exemple pour ce rôle dans La Fête est finie, j'ai lu que vous étiez un peu aussi isolée.
Oui, bah oui, je me suis un peu isolée parce que le tournage était dans un petit bled à côté de Lyon, donc et on n'avait pas de réseau dans la maison où on vivait, donc c'était compliqué de communiquer avec le monde extérieur. Mais j'ai rencontré Clémence Boinard et c'est devenu une amie.
Ah.
Alors c'est rare parce que c'est pas évident en fait sur les plateaux de cinéma de continuer à entretenir le lien qu'on a créé pendant le film, et en fait avec elle ça s'est passé.
Et je voulais vous demander, dans La Fête est finie, c'est vraiment une amitié fusionnelle, c'est vraiment le tandem, elle se trouve comme un coup de foudre amical. Est-ce que vous auriez pu c'est un rôle que vous avez pu faire, un tandem que vous auriez pu faire avec n'importe quelle jeune actrice parce que vous êtes professionnel et que c'est de l'interprétation, etc. Ou ce côté très très amical, fusionnel, fait que c'est pas avec toutes les actrices que vous auriez pu le faire.
Par exemple, Charline, on lui a imposé son collègue.
C'est vrai.
Et elle ne le vit pas bien, donc elle pose des questions du genre.
Je me projette un peu. On n'a pas pris notre bain ensemble, comme dans le film.
Voilà. Moi, d'ailleurs, c'était une scène très compliquée à tourner. J'avais pas du tout envie de la tourner. J'ai fait une espèce de crise, un caprice comme une enfant de 4 ans sur le plateau. Je voulais pas me mettre toute nue.
Ouais.
Et on était hors de question, mais bon, j'avais pas le choix, en fait. C'était écrit. Mais non, alors, j'ai complètement oublié votre question.
Est-ce que vous auriez pu tourner et faire ce tandem avec une autre actrice, n'importe laquelle
ou... Alors, non, je pense pas. J'ai rencontré d'autres actrices pour le rôle que joue Clémence Boinard. Et en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas complètement naturel. Et Marie-Garel Weiss, donc la réalisatrice, a choisi Clémence, je pense, parce qu'elle cherchait vraiment un duo. Et il fallait que ça fonctionne, parce que sinon, on ne pouvait pas raconter cette histoire. Et donc, je suis pas, je pense, suffisamment professionnelle en fait pour. En tout cas, je l'aurais pas aimé comme je l'ai aimé sur le plateau et après en fait.
Mais est-ce que c'est une question de professionnel ou pas, Hippolyte Girardot?
Je crois pas. Je crois qu'à un moment donné, jouer l'amitié, c'est un truc de scénario. C'est-à-dire que si le metteur en scène, l'écrivain, a mis en place des scènes métaphoriques de l'amitié, à ce moment-là, les acteurs n'ont qu'à la jouer et ça fonctionne très bien pour vous, spectateurs. Mmh. Par contre, ce qui est vrai, ce qui se passe, ce qui apparemment est arrivé à Rita, c'est qu'en fait, il y a un moment donné où effectivement, avec cette fille, il y a eu un vrai contact. Et je pense que quand on voit le film, il y a un déterminisme. C'est-à-dire que le fait que vous soyez très isolé, comme dans la fiction, fait qu'à un moment donné, quand vous vous retrouvez à cause du scénario, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un avec qui communiquer. Et bon, c'était bien, bien casté, quoi. Moi, je suis resté assez pote, par exemple, avec Yvan.
Yvan Attal, ouais, dans Un monde sans pitié, ouais, on a démarré ensemble.
Et puis après, on s'est fâchés, on s'est retrouvés. Enfin bref, ça c'est la vie. Mais c'est vrai que quand on est plus jeune et qu'on trouve des gens dont on travaille avec qui on s'entend bien, ça dure.
Donc vous voulez que l'amitié dure avec Clémence Boinard?
En tout cas, non, mais je suis pas volontaire dans les amitiés que j'ai. Si ça dure, je serais très heureuse. Si ça
s'entretient
s'arrête,
aussi.
Ça s'entretient complètement.
Ouais, mais si vous voulez être notre ami, il faut faire un peu d'effort aussi.
Je vous ai ramené des petits cadeaux.
Ah,
en fait.
Voilà, ça c'est bien. Ça,
super, c'est
pas vrai.
Mais c'est pas grave, on vous aime quand
même. Première déception.
On vous adopte, Zita Enro, on vous adopte volontiers. Thomas VDB, vous voilà.
Me voilà, c'est moi, regardez, c'est mes mains, c'est ma tête. Voilà, donc moi, loin de moi quand même l'idée de rebondir sur la moindre petite phrase de travers qui est dite dans les médias. Voilà. Mais je voulais quand même revenir sur la dernière sortie de Christine Angot. Parce que j'admets, moi, que quand Christine Angot, elle parle chez Ruquier, moi je suis dans mon canapé et c'est vrai que souvent je me dis, tiens, pourquoi elle dit ça, elle? C'est un truc qui revient souvent. Je me dis, ça n'a pas de sens, voilà, mais souvent, c'est vrai que je me dis ça souvent. Et la semaine dernière, c'est vrai, chez Laurent Ruquier, elle était en train d'interviewer Grand Corps Malade. Et moi, j'aime bien savoir écouter des interviews de Grand Corps Malade. C'est un de mes petits péchés mignons. Hein, parce qu'à chaque fois que t'écoutes une interview de Grand Corps Malade, c'est l'équivalent d'un inédit. Voilà, et ça, c'est bien quand même. Et donc, et à un moment, donc, la séquence a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux cette semaine. Et à un moment, donc, Christine Angot, elle dit ça.
L'idée que quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, je pense que pour tous les artistes, être artiste est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce que, ben, ce qu'on pensait faire quand on était petit. Avocat, par exemple,
médecin.
Instituteur, ou je sais pas, ou médecin, ou alors travailler dans une entreprise, ou peu importe.
Voilà, et donc c'est là, déjà à ce moment-là, que je me suis dit, c'est quand même une sacrée chance pour tout un chacun de ne pas être Christine Angot. Hein, ça, imaginez le fardeau que ça doit être dans la vie d'être Christine Angot. Ça va quand même être sacrément culpabilisant, parce qu'on le voit bien dans la séquence chez Ruquier, quand elle dit on est artiste parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire quand on était petit, par exemple avocat, ou bien... Et là, à ce moment-là, quand elle cherche, c'est vrai que si vous regardez dans ses yeux, quand elle dit ça, on voit que dans sa tête, elle commence à se dire, mais qu'est-ce que j'ai encore de dire comme connerie, mais c'est pas vrai, mais que je suis conne. Non. Et c'est vrai qu'à l'image, elle cherche des noms de métier. Elle a médecin, hein, ou instituteur. Mais dans sa tête, c'est le chaos. Et là, mais je peux encore me faire allumer sur Twitter. Mais c'est pas vrai, quelle conne je suis, voilà. Et à l'image, elle est un jardinier, hein, ou mécanicien. Voilà. Et bon, elle est en roue libre. Voilà. Mais c'est ça, son problème à Christine Angot, comme elle est en roue libre, justement, c'est que t'essayes de suivre son raisonnement, mais au bout d'un moment, t'es là, ouais, tant pis. Alors, j'abandonne, c'est vrai. Hein, parce qu'au bout d'un moment, tu regardes plus Christine Angot, mais tu regardes finalement Christine Angot. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des gens en vrai, pour contrer un peu le raisonnement Christine Angot, qui sont devenus artistes en plan B à défaut d'avoir pu faire autre chose en plan A, mais déjà c'est pas toujours le cas comme elle dit, et plus je cherche plus j'ai l'impression que c'est même jamais le cas, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher des exemples très loin, surtout par exemple on utilise plus souvent l'expression musicien frustré pour un gars qui travaille par exemple dans une entreprise que de ouvrier frustré pour un musicien connu. On entend rarement par exemple Julien Clerc, c'est un ouvrier frustré. Un ouvrier frustré, voilà. Hein, ça serait si le succès de Starmania était basé sur le hit d'un gars qui chante j'aurais voulu être en CDD pour pouvoir ranger des dossiers. Voilà, on sait que c'est pas, ça n'aurait pas fait rêver les gens. Hein. Alors autre exemple qui va rencontrer Christine Angot, on va me reprocher peut-être de faire un point Godwin, mais Hitler.
Eh oui.
Hein, Hitler, j'ai quand même plus l'impression que artiste, c'était plutôt son plan A, lui, hein, quand même, hein. Hein, le plan B, c'est quand même plutôt tout ce qui était l'univers des génocides, tout ça. Alors, il y a peut-être un conseiller d'orientation qui est un peu merdé, hein, je pense. On est d'accord avec l'idée que ça aurait été mieux pour tout le monde qu'Hitler soit un tantinet plus persévérant sur le plan A. Mais malheureusement, il est vite passé au plan B. Il a préféré quand même s'accomplir dans l'extermination de masse que dans l'aquarelle. Ça, c'est sûr. Hein, il a vu les fusains. Il a vu les fusils. Il a dit, allez, fusain, plan A, fusil, plan B, hein, c'est sûr. Et voilà, même l'actualité récente, d'ailleurs, nous montre que si on ambitionne de réussir sa vie grâce à l'art, en devenant, par exemple, je sais pas, chanteur, que ce soit en plan A ou en plan B, ben ça ne sert à rien. On peut directement ambitionner de parier sur l'avenir et de devenir tout simplement, par exemple, je sais pas, femme de chanteur. Voilà, et le vieillissement naturel des artères fera le reste. Alors c'est plus un plan machiavélique qu'un plan A ou B, mais c'est un plan quand même. Hein, voilà. Et puis surtout, quand on n'a pas envie de choisir entre deux métiers, eh ben évidemment, on peut faire les deux. Ah ben, je dis ça parce que des fois t'as des gars, ils sont à fond dans leur plan A et t'as envie de leur dire qu'ils sont tellement bons dans autre chose qu'ils pourraient direct partir en plan B. Je dis ça parce que c'est vrai que moi la semaine dernière au micro de cette émission, ben, je me suis un peu moqué de Laurent Wauquiez et cette semaine j'ai découvert une vidéo passée chez Quotidien où il donne une performance de slam hallucinante devant des étudiants d'une école de commerce à Lyon. Et c'est vrai que je parlais de Grand Corps Malade en début d'émission, mais début d'intervention, et pour moi Laurent Wauquiez, ben, c'est du Grand Corps Malade en mieux. C'est vrai que j'ai regardé la vidéo, c'est là que je vais pas te sortir le bullshit médiatique que je sors sur les plateaux
plateau télé, Angela Merkel pour trouver du charisme sur son Insta, c'est de bonne heure qu'il faudra se lever. Et je regardais ça, je suis là, mais il est hallucinant ce mec. Voilà, je crois que son plan B est tout trouvé. Voilà, c'est de l'avant-garde. Donc Christine Angot, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'on croit qu'elles sont.
Merci Thomas VDB qui est un artiste plan A puisqu'on vous retrouve le vendredi soir au Sentier des Halles.
Absolument.
Tous les vendredis
vous
à 20h.
Pas en plus, hein, samedi. C'est l'occasion de
pas que
voir.
Pas que heureusement
mais quelle imitation incroyable de Grand Corps Malade,
c'est
n'est-ce
vrai.
Pas
ouais. Ouais, ouais. Vendredi et samedi, ouais, ouais, au Sentier des Halles, c'est à 20h. Zita Enro est avec nous. Ce dernier sujet, mais qui sont ces gens qui assistent à la séance de ciné du mercredi matin à 9h? Là, il y a ceux qui veulent être les tout premiers en France à voir le film. Il y a aussi des puristes qui privilégient une vision à jeun. C'est sûr qu'on a, enfin normalement, hein, 9h, hein. 9h et ouais. Au calme. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de professionnels. Ça tombe bien le matin à 9h, c'est tout ce qui reste dans leur emploi du temps souvent, les professionnels.
Je veux absolument aller voir la pièce de Coltès au théâtre du Rond-Point cette semaine. Prends-moi deux places pour mardi.
Ah mais mardi, t'as déjà la projection du film de Kechiche.
Ah bah jeudi alors. Demain, tu me réserves une table au fumoir, je déjeune avec Audiard et arrête ce truc. Je te le prends, hein.
Non mais demain t'as déjà un déjeuner avec Danny Boone au Marly.
Oh putain t'es chiante Magali. Ah non mais Audiard et Danny Boone, je peux quand même pas leur proposer de déjeuner ensemble. Bah écoute, tu manques à l'un midi et demi, l'autre à 14h, tant pis je déjeunerai deux fois.
Camille Cotin et Amélie Etas dans 10%, la série de France 2, réalisation Cédric Clapiche. Voilà pour cet article qu'on a trouvé sur Slate qui s'interrogeait, tiens, qui sont tous ces gens qui vont à la séance de 9h le mercredi matin pour être les premiers à voir le film. Alors Zita Enro, cette attente fébrile d'une poignée de chiffres finalement sur cette première séance, alors il paraît que la séance à Paris de l'UGC, les Halles, c'est quelque chose pour le milieu du cinéma de, où tout le monde est fébrile. Je vois Hippolyte Girardot qui fait oui avec la tête. Ouais, Zita Enro, vous aussi, à 28 ans, vous regardez ça avec un peu de distance ou c'est vachement important, ça, mercredi 9h, là, pour La Fête est Finie?
Bah, dans le cas de La Fête est Finie, c'est vachement important. C'est vrai qu'au moment de Fatima, j'avais pas du tout conscience des enjeux de cette séance. Et là, oui. Alors,
qu'est-ce que vous en avez compris? Quel enjeu, si vous deviez nous expliquer à nous?
En gros, en fait, pour les films d'auteur, c'est important. Mm-hmm. Et que ça détermine un peu la vie du film, sa vie en salle. Mais
on va donner l'horaire de la séance. Allez le voir ce jour-là, à quelle heure?
Ah bah donc mercredi matin à 9h.
Voilà. À 9h, c'est ça, ouais.
Mercredi matin à 9h. 9h.
Si UGC, vous voulez aider le film,
oui.
Au Halles.
Mais voilà.
Ouais. Alors, est-ce que dans le reste de la France, il y a aussi les premières séances? Non, c'est vraiment Paris
non,
qui
en. Non, mais oui, non, ça n'existe pas parce que, par exemple, bah, toujours avec l'exemple de Marseille, il n'y avait pas. Déjà, c'est dur de trouver des séances à Marseille. Ah, il oui. N'y a pas beaucoup de cinéma et il n'y avait pas cette chose-là, en fait. Donc, c'est vraiment typiquement parisien et je pense qu'en banlieue, il n'y a pas autant ça.
Et après, heureusement, il y a tout le reste de la France qui définira le succès du film qu'on vous souhaite magnifique. C'est un très, très, très beau
mais
film.
Mais en plus, c'est mieux d'aller le matin tôt. C'est mieux pour commencer la journée.
Hey, ouais. Très bonne idée. C'est exactement ce que dit Slate aussi. Zita Enro, on vous fait un cadeau parce qu'on est nouvellement amis. Donc, on a décidé qu'on devenait amis. Merci. Avec Zita.
On sait alors, que vous êtes passionné de grands minces qui jouent de la guitare. Eh bien, il y en a un derrière vous. C'est Frédéric Fromet.
Bonsoir.
Ah, vous avez vu, je vous ai déjà fait des meilleurs lancements. Hein.
Il est gaulé comme une disquette, évidemment.
Okay.
De quoi allez-vous nous chanter?
Je vais vous chanter la réapparition de la nièce.
Maréchal, te revoilà. Crois-tu que ça réjouisse tata? Peu importe, grand-papa. Lui, ça fait longtemps qu'il est gaga. Maréchal, te revoilà. Pourquoi ta retraite as-tu trahi? Sinon, pour contrarier ta tatille. Maréchal, maréchal, te revoilà. Ah, quelle jolie famille, ambiance 39-40, où le père emmerde la fille, et la nièce fait chier la tante, où le clébard du vieux schnock, un jour bouffa la chatte de Marine sous le choc, et maintenant le retour de la scélérate. Maréchal, te revoilà. Ce n'est pas Washington, c'est Dallas qui joue JR. On a le choix. Chez les Le Pen, tout le monde fait des crasses. Maréchal, te revoilà. tu es bien la petite fille de ton grand-père. Pour faire celui-là, sœur de ta mère, maréchal, maréchal, te revoilà. Vivement le partage des biens de ton papy, qui fera passer l'héritage de Johnny pour une plaisanterie à la une de Valeurs Actuelles et de Radio Courtoisie. Toute la Smala Le Pen se disputant la filiation nazie. Maréchal, te revoilà dans une sorte de retour avorté. Avorté, ça te ressemble pas, ça ferait mauvais genre dans ton CV. Maréchal, te revoilà, quand bien même c'est pour pourrir ta date. Ta tête est partie, qu'est-ce tu fous là? Maréchal, maréchal, reste chez toi.
Merci.
Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Frédéric, vous jouez ce week-end?
Oui, dimanche à 19h à la Comédie de Paris.
Oh, dites donc. Et vous, Viserey, qu'est-ce que...
Yves Tour en Normandie, figurez-vous.
Oh, je voyage, me balader, on voyage avec vous, c'est incroyable. Et on salue tous les Marseillais, bien sûr.
Oui.
Car Zita Enro vient de Marseille. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup à Zita Enro d'être venue nous voir. Et puis en plus, on a gagné une amie, donc on est contents.
Merci.
On était ravis de vous recevoir. Je rappelle donc La Fête est finie, ce très beau film de Marie-Garel Weiss, avec Clémence Boinard et plein d'autres acteurs, bien sûr, qu'on n'a pas cités, mais ils sont tous formidables. Ça sort en salle mercredi prochain. On souhaite beaucoup de succès à ce film. Ouais.
C'est Girardot sur les skis, jamais.
Petite pensée pour tous les gens qui sont tous skis, effectivement. Merci beaucoup Christine Gonzalez qui rentre en Suisse, Hippolyte Girardot, merci beaucoup à Thomas VDB qui ce soir au Sentier des Halles, merci Alex, Frédéric Fromet et à toute l'équipe, hein, bien sûr, Nathalie Romero, Sarah Masson, Marion Lelay à la réalisation on cette semaine, évidemment on la félicite. Et puis on va laisser le mot de la fin à Charles Trenet qui nous parle d'héritage.
J'étais très étonné. Johnny a toujours eu un très grand sens des affaires, c'est très curieux.